Et chers amis, aujourd'hui, nous avons la deuxième partie du manifeste pour les chrétiens. Et nous arrivons à douzième manifeste. Eh bien, c'est l'essence de la société. La société consiste d'individus formés par Dieu et de groupes redevables à Dieu et à ses lois. Nous affirmons que la société consiste d'individus et de groupes. Tous les individus, en tant que créatures de Dieu, sont équitablement redevables à sa seule loi impartiale, sans respect de l'âge, du genre, de la classe, de l'ethnique ou de l'appartenance religieuse. La société doit donc être régulée par une loi impartiale qui demande la responsabilité individuelle. Chaque individu, toutefois, est unique et également inégal dans son niveau d'obéissance à Dieu, ainsi que dans ses capacités et dans ses dons, dans ses offices et responsabilités, car nous sommes divers. De plus, les groupes ethnoculturels sont formés par Dieu et sont collectivement responsables et jugés par lui. De tels groupes doivent conformer leurs valeurs, leurs lois, actions et institutions à la loi de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Sainte Bible. Chacun de ces groupes a le devoir et a le droit à la liberté et la détermination personnelle sous Dieu. Cette liberté ne peut être perdue que par une incroyance persistante et une rébellion contre la loi de Dieu. Premièrement, nous avons l'impartialité légale. Il est dit qu'il n'y aura qu'une seule loi pour vous et pour les étrangers qui séjournent avec toi. Nombre, chapitre 15, verset 15. Ainsi que Saint Luc, chapitre 24, verset 22. Tu ne feras pas de favoritisme avec le pauvre, ni te laisseras éblouir par le grand. C'est selon la justice que tu jugeras ton comparse justement. L'impartialité de Dieu, eh bien, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Romains chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Deuxièmement, un homme confie ses biens selon ses capacités. Saint Matthieu chapitre 25, verset 14. Nous avons des dons différents. Romains chapitre 12, verset 6. Différents niveaux d'obéissance également. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Romains chapitre 14, verset 12. Troisièmement, Dieu a fait les peuples et leurs frontières. Lorsque le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand il répartit les fils de l'homme, il leur fixa les limites de l'homme selon le nombre des fils de Dieu. Et vous pouvez trouver dans Deutéronome, chapitre 32, verset 8, la confirmation. Et vous pouvez noter aussi Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Donc, tous les peuples que vous avez créés vous adoreront. Et quatrièmement, Il y a le jugement sur les peuples. Quant à mes mauvais voisins, eh bien, je dois, hélas, les arracher de leur sol. Mais après les avoir arrachés, à nouveau, je les ramènerai chacun à son héritage. Et s'ils apprennent avec soin les lois de mon peuple, et ceci de façon à jurer et à vivre par mon saint nom, alors ils seront établis. Mais par contre, s'ils ne veulent pas écouter, voilà le libre choix, eh bien je serai obligé de les exterminer. C'est ce que dit le Seigneur. Jérémie, chapitre 12, verset 14. La loi de Dieu, c'est un modèle pour tous les peuples. Romains, chapitre 13, verset 2. Le 13e manifeste, là nous avons l'essence de l'Église. Nous affirmons que bien qu'il existe beaucoup de manifestations théologiques et de dénominations chrétiennes, en réalité, il n'existe qu'un corps du Christ, un seul corps du Christ auquel tous les chrétiens appartiennent dans l'indivisible unité d'une seule foi. L'unité de l'Église est donc rendue visible par la discipline de l'Église qui est respectée par tous les véritables Églises. B. La table du Seigneur, elle est ouverte à tous les vrais croyants. Et C. La proclamation fidèle de la seule foi évangélique qui établit la seule loi de Dieu, c'est l'unité visible de l'Église qui ne détruit pas la réelle diversité que Dieu a créée. Premièrement, il est dit car de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre de différentes fonctions, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun, pour sa part, membre les uns des autres. Et notez soigneusement Romains, chapitre 12, verset 4, et 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 et 13. Deuxièmement, nous devons avoir une discipline. Si ton frère vient à pécher, alors va le trouver et reprends-le. Reprends-le seul à seul. Mais bien entendu, s'il écoute, eh bien là, tu auras gagné sur ton frère. Par contre, s'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres pour que toute l'affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Notez Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Alors, supposons qu'il refuse de les écouter. Alors, là, toute la communauté pourra faire quelque chose. Car s'il refuse d'écouter même la communauté, eh bien, qu'il soit, hélas, malheureusement pour lui, qu'il soit pour toi devenu comme un païen, comme le publicain. Matthieu, chapitre 18, verset 15, ainsi que 1 Corinthiens, chapitre 5. Appliquez-vous donc à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qui représente la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Donc, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de vous tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en tous. Éphésiens chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 6. Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous sommes donc qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14 à 22. Vous pouvez noter aussi Jacques, chapitre 2, verset 1 à 9. Et troisièmement, l'unité, elle est trinitaire. Exemple, il y a une vraie diversité dans l'unité confessionnelle et pas nécessairement bureaucratique ou hiérarchique. Je ne prie pas pour eux seulement. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront, par exemple, les futurs croyants en moi, l'Éternel, afin que tous puissent devenir un et soient un Père, comme vous êtes en moi et moi je suis en vous. Exemple, une véritable unité dans une réelle diversité. Jean, chapitre 17, verset 20. Quatorzième manifestation, nous avons l'essence des gouvernements. Dieu a établi quatre sortes de gouvernements: le gouvernement individuel, le gouvernement familial, le gouvernement civil et le gouvernement de l'Église. Nous affirmons que Dieu a ordonné quatre domaines de gouvernement: celui de l'individu, celui de la famille, le civique et l'ecclésiastique. Ils ne doivent donc jamais se fondre en un seul. Ils tirent leur autorité de Dieu seul et de sa sainte parole. Tous les gouvernements civils sont tout d'abord redevables à Dieu comme un serviteur, et seulement alors ils peuvent servir leurs citoyens. Tous les niveaux des gouvernements civils ont reçu le glaive pour protéger ceux qui observent la loi de Dieu et pour punir les malfaisants. Si, par exemple, un dirigeant civil désobéit la loi de Dieu et ainsi agissant en tyran, alors les citoyens et les autres dirigeants civils se doivent d'appeler le dirigeant désobéissant afin qu'il rende compte devant une cour de loi et en prière devant la cour de Dieu. Tous les magistrats se doivent d'exercer une justice impartiale par un système de cour légale indépendant. Premièrement, individuel. Le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Romains chapitre 13, verset 1. Deuxièmement, Dieu se dresse en conseil divin au milieu des dieux et il juge. Psaume 82, verset 1. Donc César n'a pas la totale autorité. Saint Matthieu chapitre 22, verset 21. Malheur à ceux qui acquittent le coupable pour un pot de vin et refusent à l'innocent la justice. Ésaïe chapitre 5, versets 22 à 24. Saint Paul fait appel à la plus haute cour, Actes chapitre 25, verset 11. Le 15e manifeste, là nous avons l'essence de l'éducation. Les parents chrétiens ont l'autorité de doter leurs enfants avec l'éducation chrétienne de leur propre héritage. Nous affirmons que Dieu a donné aux parents la responsabilité d'éduquer les enfants qu'il a placés sous leur garde. L'éducation est la manière d'élever et de former les enfants et de les instruire selon la sagesse et les principes de la chrétienté biblique, comme il s'applique dans tous les domaines de la vie. L'éducation n'est donc pas neutre en ce qui concerne les faits, la morale, la philosophie ou la spiritualité. Parce que l'éducation chrétienne, elle est une extension de la famille, elle doit offrir l'héritage distinct, linguistique et culturel de la famille. Pour renforcer une éducation honnête et pieuse des enfants, donc très sérieuse, Dieu a donné aux parents et à l'école, sous l'autorité des parents, le droit d'utiliser même la baguette de la discipline, contrairement à ce que on enseigne aujourd'hui. Premièrement, les fils sont un héritage. Les enfants sont une récompense de Dieu. Deuxièmement, béni soit donc l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants ou qui s'assoit dans le siège des moqueurs. Et troisièmement, assurez-vous que l'on ne vous capture pas avec des philosophies creuses et déceptives qui dépendent de la tradition humaine et des principes de base de ce monde plutôt que de celle du Christ. Colossiens chapitre 2 verset 6, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, car la sagesse de ce monde est stupide aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19. La sottise, elle se trouve dans le cœur de l'enfant, mais la baguette que j'ai déjà citée, la baguette va l'en éloigner. Et là, vous pouvez noter le proverbe chapitre 22, verset 15, toujours Proverbe, chapitre 19, verset 18, chapitre 29, verset 15. 16e manifeste, là nous avons l'essence de la loi morale. En effet, les chrétiens doivent se conformer toute leur vie aux principes de la loi de Dieu. Nous affirmons que les chrétiens, par leurs prières et leurs témoignages, doivent opposer les plaies sociales et morales à la loi de Dieu. Nous acceptons que tous les domaines de la vie humaine doivent se conformer à la loi morale absolue de Dieu telle qu'elle est enracinée dans les 10 commandements et expliquée et appliquée dans les principes valables universels trouvés dans chacun des cas judicieux des lois de l'Écriture sainte. Bien que le salut ne soit pas par la loi bon ou mauvais, Dieu définit la justice et l'oppression. Et cette loi nous donne aussi les schémas pour construire des vies pieuses, sérieuses et un juste système sociopolitique et économique. Le 10e manifeste, on peut dire que nous avons l'essence de la protection. En effet, les chrétiens doivent préserver et protéger responsablement la vie, respecter et protéger la famille, les biens et la paix. Nous affirmons donc que la responsabilité donnée de Dieu à tous les individus sous l'autorité légale du gouvernement civil et selon les lignes de conduite définies par Dieu est de préserver la paix et de protéger la vie, la famille et les biens. Donc, chaque dirigeant, quel que soit son niveau à l'intérieur du gouvernement civil, est responsable de la protection de ses constituants contre l'oppression, que les privés, ou plutôt qui les privent, des droits moraux, des droits bibliques et des devoirs de la liberté chrétienne. Je répète, pour que ce soit bien compris, chaque dirigeant, quel que soit son niveau, donc qui se trouve à l'intérieur du gouvernement civil, il ou elle est responsable de la protection de ses constituants contre l'oppression qui les prive des droits moraux bibliques et des devoirs de la liberté chrétienne, ainsi que de la vie, de la vérité, de la famille ou des biens privés qui leur ont été donnés par Dieu selon ses divines lois. Premièrement, soyez en paix avec tous, si possible. Soyez en paix avec tout un chacun autant qu'il dépend de vous. Romains chapitre 12, verset 17. Deuxièmement, le grand commandement, autant que les 6e et 8e commandements impliquent que nous devons tout faire pour préserver la vie, la propriété et la paix. Et là, vous pouvez souligner Exode, chapitre 20, verset 13, Saint-Luc, chapitre 10, verset 25, ainsi que Romains, chapitre 12, verset 17. Je recommande donc que des prières soient faites pour les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Troisièmement, cette protection du droit du glaive inclut A. le droit du gouverneur civil de s'engager dans une guerre, par exemple pour défendre les droits bibliques de ses citoyens, et B. le droit d'appliquer la peine capitale. Le dépositaire de l'autorité, c'est le serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il porte le glaive. Romains chapitre 13, verset 3, Romains chapitre 1, verset 32, ainsi que Actes des Apôtres, chapitre 25, verset 11. Et quatrièmement, la liberté des croyants de régner sur tous les domaines de la vie selon la loi de Dieu. Je suis, est-il dit, le Seigneur ton Dieu, et je t'ai fait sortir de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne porteras pas de témoignages mensongers dans une cour de loi. Exode, chapitre 20, verset 16. Le 18e manifeste, là nous avons l'essence de la charité et de la justice. Les chrétiens, ils ont un contrat d'aider le pauvre et le faible, et par le gouvernement civil, d'apporter une justice impartiale. Nous affirmons que les chrétiens ont une responsabilité mandatoire d'aider le pauvre par des dîmes généreuses et des offrandes afin de subvenir aux premiers besoins en nourriture et en vêtements. Toutefois, Dieu est spécialement concerné pour ces pauvres et ces exploités qui sont humbles et qui croient en lui. Alors, le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'esclave et les étrangers qui appellent son divin nom devraient aussi nous concerner. La compassion pour le pauvre et le faible, ainsi que l'étranger, est le devoir des individus, le devoir des familles et des églises. Le devoir d'un gouvernement civil est d'offrir activement une justice impartiale pour tous. Premièrement, se trouve-t-il chez toi un pauvre d'entre tes frères? Ça veut aussi dire les sœurs, vous l'avez compris. Tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras la main à ton frère et à ta sœur. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras ce qui lui manque. Deutéronome 15, verset 7. L'âme qui bénit prospérera et qui abreuve sera abreuvée. Heureux qui a pitié des pauvres. Et là, vous pouvez noter Saint Matthieu, chapitre 19, verset 21, et Saint Luc, chapitre 6, verset 35. Ensuite, deuxièmement, nous avons la veuve, nous avons l'étranger. Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous-même, vous avez été étranger en Égypte, souvenez-vous. Ne maltraitez pas une veuve ni un orphelin. Si tu le maltraites et qu'il crie vers moi, j'écouterai son cri, et ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par l'épée, ainsi que vos femmes seront veuves et vos fils seront orphelins. L'attitude de Dieu envers le désobéissant, pauvre, est une réalité, car de ces veuves et de ces orphelins, le Seigneur n'aura pas pitié, car tous sont impies et malfaisants, toute bouche profère l'insanité. Ésaïe chapitre 9, verset 17, Jérémie chapitre 15, verset 7, et vous pouvez noter le psaume 109, verset 9. Et troisièmement, vous devez vous tenir à distance de chaque frère et de chaque sœur qui, par exemple, mène une vie désordonnée. Vous savez très bien comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas eu une vie désordonnée. Nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangions, mais de nuit comme de jour, nous étions au travail pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous donnions cette règle, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Notez 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, ainsi que Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Dans le 19e manifeste, nous avons l'essence de l'intendance. Et nous terminerons donc cette deuxième partie par l'essence de l'intendance. Oui, les chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, ils ont la responsabilité de nourrir la nature et eux-mêmes, selon la sainte parole de Dieu. Nous affirmons que Dieu, il est le Seigneur et propriétaire de toutes choses. Il a ordonné que ses intendants fidèles règnent et prennent soin et qu'ils gèrent avec attention les ressources de sa création. Par l'Esprit Saint, l'intendant travaille progressivement pour contrer les effets de la malédiction sur la terre qui ne sera contrecarrée qu'à la résurrection. Les intendants de Dieu acceptent sa souveraineté en aidant le travail du royaume par des dîmes et des offrandes et en se tournant vers une intendance mature. Et ceci par la foi et par l'obéissance dans tous les domaines de la vie. Tous les intendants se doivent de vivre en accord avec l'Écriture sainte par le corps du Christ et des chefs matures et qui sont dévots. Si ces chefs ne sont pas mûrs ou ne sont pas dévots, ne sont pas motivés, zélés, alors les croyants sont responsables pour se nourrir eux-mêmes par la prière, par l'étude de la Bible et par la camaraderie. Premièrement, la terre, elle appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient, ainsi que le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24, verset 1, ainsi que 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 26. Deuxièmement, les dîmes, Deutéronome 14, versets 28 et 29, ainsi que Nombre, chapitre 18, verset 21. L'homme peut-il tromper Dieu? Pourquoi donc cherchez-vous à me tromper? Car en demandant en quoi t'avons-nous trompé? Vous me trompez, par exemple, quand vous retenez vos dîmes et vos offrandes. Vous êtes frappés de malédiction. La nation tout entière, oui, parce que vous me trompez. Apportez donc toutes les dîmes au trésor du temple, qu'il y ait des vivres dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je ne réponds pas la bénédiction. Saint Matthieu, chapitre 3, verset 7. Les offrandes, vous pouvez noter 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 1, ainsi que 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 1. Troisièmement, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Saint Matthieu 5, verset 48, et Saint Luc, chapitre 6, verset 36. De même que celui qui vous a appelé est saint, eh bien vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Quatrièmement, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule et ne se sépare de Dieu, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse, séduit par exemple par le péché. Hébreux, chapitre 3, verset 12, chapitre 10, verset 24 et 25, Galates, chapitre 6, verset 1, ainsi que 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. Aux anciens et les pasteurs, le Seigneur dit de paître le troupeau de Dieu qui vous est confié, et ceci en vous rendant les modèles. Soyez les modèles du troupeau. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 1, ainsi que Actes des apôtres, chapitre 20, verset 17. Et cinquièmement, toute l'écriture, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, et ceci dans la justice, afin que l'homme soit apte à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Chers amis, nous terminons donc cette deuxième partie du manifeste pour les chrétiens. Demain, Dieu voulant, nous ferons la terminaison, nous terminerons la troisième partie du manifeste pour les chrétiens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain, Dieu voulant.